Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Montréal, c'est le lendemain de la veille, c'est KUT 90.3 FM avec Marc-André et Nelson. Mon nom est César. Malheureusement, Nelson n'a pas pu être aujourd'hui, fait que je vais remplacer pour un petit peu pour ce lundi matin. Marc-André, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ah, très bien, très bien. Je suis désolé si on a réveillé un peu le monde avec le son du « Killing Joke ». La chanson s'appelle 80s. On commence avec des tributes aujourd'hui. On a eu deux gros décès dans la scène du rock qui a influencé des millions de bands depuis les années 80, 70, ou un autre artiste qui va venir qu'on va jouer un peu plus tard. Pour Killing Joke, c'était Jody Walker qui est décédé le 26 novembre. C'est une grosse perte pour le groupe parce que c'était l'architecte du sonore. Ouais. De riff, c'était le gars des riffs, puis c'est triste parce que tu sais que genre Killing Joke c'était un groupe que genre les fans les suivaient, puis ils voulaient savoir où ce qui s'en allait, c'est quoi le prochain album, c'est comme un événement. Moi j'étais chanceux de les avoir vus en 2013, je crois.
Brag.
Il était venu au Café Campus.
Hey. Ah ouais, hey. Ouais. Petite salle, ok.
Petite salle, là. Ouais. Puis on a été comme juste 40 personnes. Oh, 45 ans. C'était super petit. J'étais assis en arrière. Tu sais, c'était pas tout le monde qui connaissait Killing Joke. Fait que j'ai pu les voir. Puis hey, c'était un show. Tu sais, ils étaient dans la mi-cinquantaine, ces bonhommes-là. Puis ça jouait.
Fais attention à ce que tu dis à des bonhommes de 50 ans qui font encore des riffs.
Je pointe pas du doigt dans cette salle-ci, Marc-André, mais non, c'était vraiment un beau show. De A à Z, c'était comme un catalogue Greatest Hits qui ont joué à Montréal. Puis ils ont joué 80s aussi. Puis c'était vraiment cool de voir comme chanson qui a été sortie en 1985. Puis Jazz Coleman, encore la force dans ses cordes vocales, tu sais, il est capable de chanter très doux puis faire les gros cris qu'on entend.
Guttural d'énergie punk.
Ouais.
Mais eux sont considérés, ok, c'est un band british, ils sont considérés comme punk ou...
Ils ont commencé dans la vague post-punk en 79, puis ont sorti leur premier album en 80. Album qui a pas mal... disons, en 80, il y avait beaucoup de post-punk, tu sais, la fin des Sex Pistols, Joy Division, qui venait de sortir Closer en 80 aussi. Puis eux, disons que c'était des groupes qui sont tous entrecroisés. C'était le début de... comment on peut dire? Le blueprint pour le New Wave qui s'en venait.
OK.
Mais aussi, genre, où est-ce que après le punk, le post-punk, où est-ce que ça s'en allait? Puis eux, leur façon qu'ils jouaient, c'était quand même agressif. Qu'est-ce qu'ils donnaient comme le départ pour... Je ne sais pas si je peux te dire comme, on va dire, le heavy metal, je sais pas.
Le début, ouais.
C'était pas mal le début, tu sais, c'était les riffs étaient quand même agressifs, les lyrics, c'était très fist in the face.
Moi, j'ai senti un petit côté Nirvana quand les premières notes ont joué, le son, l'ambiance.
Ça, c'était le classique, comment on dit, un bout de l'histoire du rock, Killing Joke, qui sont inspirés par The Darkness. J'oublie le titre de la chanson. Mais Nirvana était des gros fans de Killing Joke.
Okay.
Puis eux sont inspirés de 80s pour faire Come As You Are.
Ouais, ça semble un peu.
Fait que, tu sais, il y a vraiment une similarité dans la composition, puis comment les notes, tu sais, elles descendent, on va dire, les accords.
Mm-hmm.
Puis disons qu'il y avait comme comment on dit, pas un accord, mais un misunderstanding, je sais pas. Ils ont failli aller en lawsuit, puis ils ont drop quand ils ont su que Kurt Cobain était décédé en 94.
Oh, OK.
Fait que, y a un petit beau documentaire pour voir sur YouTube que vous voyez quand Dave Grohl il arrive dans le studio pour aider à faire les tracks de drum pour l'album en 2003 de Killing Joke, qui les a fait pour...
$0 parce que je vois mon collègue qui fait le signe zéro.
Ouais.
Fait que là, il est allé drummer gratuitement.
L'album au complet, puis c'est considéré comme un des meilleurs albums du catalogue à eux parce que c'était un moment qu'ils ont perdu un drummer. Le groupe était un peu...
Sur le statu quo, il était sur la corde de raide, c'était la fin.
Ouais, on dirait que c'était la fin, puis ils ont essayé de faire un album, puis là, quand ils ont pogné Dave Grohl, ça a comme juste réénergiser le groupe. Ils, ben ont ouais. Ils ont sorti plusieurs albums back-à-back en 2006. Rosanna's from the Basement of Hell, Absolute Descent en 2010. Puis tu vois que genre c'était des hommes dans la quarantaine qui ont juste... Ils ont eu plus d'énergie, puis ils ont plus d'idées, plus d'inspiration, puis ils ont sorti des albums encore plus intenses, plus agressifs de tout leur catalogue. Puis même leur dernier album en 2015, Pylon, c'est quand même surprenant que ils ont sorti un album aussi intense à leur âge. Fait que ça donne des idées que, genre, tu sais, des bands comme Metallica qui sont encore des albums.
Ouais, parce qu'on
encore...
dirait, parce que en vieillissant, le tempo, Dave Lombardo de Slayer, on a souvent parlé, c'est que notre rythmique cardiaque est plus slow. Fait qu'on a tendance à jouer plus slow, tu sais, à moins vouloir rentrer dans le tapis. Puis eux, ben, on dirait que c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait entendre une pièce que Dave Grohl drum dessus avant l'émission. Et on c'est presque du Ministry. C'est un drum agressif, une guitare agressive. C'est presque du techno industriel, mais fait avec des vrais instruments. Fait que ouais. C'est assez incroyable.
En fait, t'as écouté Asteroid, qui était la troisième chanson de l'album qui a sorti en 2003. C'est quelque chose à écouter juste pour entendre Dave Grohl. C'est l'année où il a drumé pour Queens of the Stone Age l'année d'avant.
L'album, ouais. C'était quoi? C'était pour
Sons
le Deaf.
For the Deaf.
For the Deaf, ouais.
Ouais. Quand même cool comme album. Ouais. Puis, ouais, c'était les 2-3 ans que Dave Grohl il a drumé des projets, et même drumé pour Nine Inch Nails, pour With Teeth. Un projet qui ça a été enregistré pendant un petit bout de temps, puis il est sorti jusqu'en 2005. Fait que
là, dans ce temps-là, il n'y avait pas les Foo Fighters ou il était sur.
Il faisait encore, c'est Foo Fighters.
Il faisait encore, mais il était sur sa glace un peu ou.
Peut-être qu'ils prenaient pas. Je connais pas trop la discographie de Foo Fighters ou juste le chemin qu'ils ont fait, puis à quel moment ils s'est donné un break. Mais ouais, quand même, c'est un drummer qui il enregistre très rapidement. Okay. Il va pas.
Ça n'y est pas dans le studio.
Non, il y a vraiment une mentalité comme, tu sais, genre DIY, let's go, on n'a pas un gros budget, puis il faut qu'on enregistre ça vite. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'esprit musicien qui a faim, puis il faut qu'il enregistre ça sérieusement. Puis.
Pour passer à prochaine tournée, au prochain contrat.
Ouais, fait que quand même, Killing Joke, Rest in Peace, Jody Walker, c'est l'homme à riff, c'est l'homme qui a influencé beaucoup d'artistes, c'est comme des Tom Morellos ou des... ils ont même influencé Metallica, que Metallica a fait un cover de Wait dans leur Garage Inc.
Ouais.
Même Nine Inch Nails, Ministry, tu sais, ils étaient le début du rock industriel aussi. Il y avait beaucoup ces éléments, synthétiseurs, qui genre, ça a juste parti après ça.
Okay.
Mais c'était le début de New Wave, t'avais Thrash Metal, puis après ça, il y avait le Industrial qui est arrivé à la fin 80. Fait que eux, ils étaient les
précurseurs de tout ça, si on peut
exact.
Dire. Wow, ben rest in peace aux fans, c'est pour vous qu'on a fait jouer, ben c'est pour vous que César a fait jouer ça ce matin. Ben on dirait que le mois de novembre vient de finir, là on va se préparer au temps des fêtes puis tout ça. Par contre, le mois de novembre, c'est un mois chargé, tu sais, c'est le mois des morts, tu sais, je veux pas déprimer personne, on est lundi matin, on est plein d'énergie, on est de bonne humeur, on prend un bon café, un bon lait au chocolat chaud, mais c'est un mois qui est difficile, j'ai pas besoin de... on a perdu un grand Carl Tremblay des Cowboys Fringants, on vous en fera pas jouer ce matin, c'est pas qu'on veut pas, c'est que ça joue tellement en boucle sur toutes les chaînes commerciales en ce moment. C'est le fun. Même, ils vont represser des vinyles parce que la demande dans le malheur, il y a comme une résurrection de la vente de vinyles pour les Cowboys Fringants. On salue tous les fans. On salue tous les auditrices et les auditeurs qui ont trippé ces Cowboys Fringants. Moi, les Cowboys Fringants, juste faire une petite parenthèse, j'en écoute pas. Je pense que j'en ai deux. Mais les Cowboys Fringants, je vais être honnête avec vous, à chaque fois qu'il y avait un show, que ce soit de la Saint-Jean, d'un événement, on les a vus à plusieurs reprises, que ce soit à La Chine dans ton hood,
oui.
À Vaudreuil pour une Saint-Jean, un peu partout. À chaque fois qu'on est allé les voir en show, à chaque fois que j'emmenais des gens les voir en show, payant, gratuit, peu importe, c'était tout le temps un événement. Mm. C'est le band festif. Tu pouvais pas être indifférent quand tu allais voir un show de ce groupe-là. Autant le bassiste que Carl sautait dans la foule, faisait du stage dive, faisait du body surf. C'était une boule d'énergie incroyable. Et le nombre de bonnes pièces qu'ils ont, ça part des étoiles filantes, on pourrait faire tout ça. c'est incroyable. On veut, on pine nos hommages à Rest in Peace aussi, Carl Tremblay. Et un autre qui nous a quitté, si je te dis pas Berlandais, Irish, la Guinness, la fête des Irlandais, moi j'associe ça à The Pogues. Et là est décédé
Shane McGowan.
Exactement. On va en faire jouer tout à l'heure aussi. C'est comme, excusez, c'est une émission à thématique plus dark, mais c'est ce qui arrive en ce moment. Puis c'est des noms, je veux dire, de Pogues, j'ai écouté ça quand j'ai découvert ça. Ça, c'est, à la place d'écouter du gros punk rock, des affaires 4x4, ben là, ça c'était acoustique. Il y a de la mandoline, il y avait du violon, il y avait de l'accordéon. Tu sais, c'était un autre beat. T'avais envie, quand t'écoutes ça, t'as envie de prendre, te déboucher une Guinness à 7h le matin, puis de partir ta journée, manger un steak, puis let's go, I'm on the run. Mais c'est ça, c'est des grands noms. Puis tu sais, Monsieur McGowan, j'étais presque surpris qu'il soit encore vivant. Je vais te dire pourquoi. C'est qu'il est tombé un peu dans le piège du rockstar, un peu du gars qui boit, puis qui buvait pas au début, mais il a bu, il a bu jusqu'à presque en mourir. Là. C'était rendu presque triste, presque pathétique à la fin. J'ai pas suivi les dernières années. Il a fait des un groupe, je pense que ça s'appelait Pogues Mahone. Il a fait comme un side project, en tout cas. Puis, tu sais, c'est souvent axé sur... C'est pas juste ça, de Pogues, mais il y avait beaucoup la fête irlandaise, l'alcool, le whisky, tout ça. Et malheureusement, je pense qu'il est mort. On va regarder ça tout à l'heure. Je pense qu'il y avait une soixantaine d'années, ouais, lui, avec. C'est pas très vieux, mais tu sais, quand t'es dans le monde du rock and roll depuis longtemps, puis tout ça, puis soir après soir, t'es en tournée, puis t'as l'occasion de faire la fête, ben, un moment donné, ça l'atteint son bonhomme, puis ça le ralentit.
65 ans.
65 ans, mort le 30 novembre. So, rest in peace. On va en faire jouer tout à l'heure. On a une super bonne émission pour vous. Il y a quand même du positif. Des films, des bandes dessinées. Je vais y aller tout de suite, je pense, avec... je vais y aller avec une bande dessinée, mais je sais que tu as vu un film aussi que je suis très curieux.
Oui.
Je sais pas si tu vas en parler tout de suite.
Je suis allé voir Napoléon, de Ridley Scott. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Un film intéressant, il se réunit avec Joaquin Phoenix pour le lead role. Dernière collaboration, c'était Gladiator en 2000-2001. Puis, quand même intéressant comme film, tu sais, Ridley Scott, c'est des gros films, des gros sets, c'est très épique, surtout quand ça va dans le temps, je sais pas, 1700, tu sais, c'est vraiment, il y a le décor, tu sens vraiment que tu es immersé dans le... Tu vois tout le comment tous les châteaux, toute la richesse, mais quand ils vont en guerre, tu vois vraiment leur lourdeur, comme vraiment ils sont dans la boîte, ils sont dans le froid. C'est
moins glorieux, c'est moins...
C'est moins glorieux, tu sais, c'est un film quand même violent dès le départ. Right off the bat, ils voulaient pas te montrer genre un period piece que genre, OK, c'est beau. Nope, ça commence tout de suite... avec l'ascension de Napoléon, avec sa première guerre, comment il commence à conquérir dans France, puis après ça, il va dans d'autres pays. Puis, mais quand même, c'est Ridley Scott.
Qui est rendu, lui aussi, à un âge assez avancé.
82 ans. Puis,
il fait encore des films, wow.
Mais lui, il a une technique de filmage qu'il met, supposément, il met plusieurs caméras, différents angles, puis il shoot. Puis il bouge tout de suite, il perd pas de temps, il n'y a pas beaucoup de reshoot, tu sais, il bouge très rapidement avec, avec son calendrier, qu'est-ce qu'il doit faire. Puis tu regardes sa filmography, c'est des films back-à-back, non-stop, tu sais. Il avait sorti un House of Gucci il n'y a pas longtemps, il a sorti je ne sais pas trop quoi, tu sais, il sort plein de films tout le temps. Et ça a toujours été son MO quand il vient à shooter des films. Puis là, je pense qu'il y a déjà des plans pour deux autres films pour les prochaines années. Il n'arrête pas.
My God,
là.
Relax.
Et tout le monde, Ridley Scott, c'est une personne que, genre, veut ou veut pas. Il y a des films que c'est pas pour tout le monde. Il y a des films qu'on peut adorer, comme pour moi. Genre, j'ai Alien, Blade Runner, Kingdom of Heaven, c'est mon film personnellement mon préféré de Ridley Scott, mais il y a d'autres personnes qui vont dire que Gladiator, c'est tout ce qu'il connaît.
Ouais, exact.
Ou t'as Thelma & Louise en 90.
Ah, c'est lui qui avait fait ça aussi.
Ouais, okay, c'est lui qui a fait ça.
Okay, ouais. Puis, ben, ça avant garde ça.
Mais Napoléon, honnêtement, je le donnerais un bon 7 sur 10. C'était beau à voir, c'est comme un événement. T'sais, un film de Ridley Scott, de même, c'est, tu voulais voir qu'est-ce qu'il allait faire. Mais ça, pour moi, ça ne m'a pas cherché à fond. C'était juste... c'est difficile à dire. C'est comme... Après 2h30, 2h40 de film...
C'est long.
C'était long. Puis en plus, très traditionnel, le Ridley Scott, il y a son Extended Director's Cut qui est de 4 heures, qui va sortir à supposément la fin de l'année ou l'année prochaine.
En cinéma ou juste en...
Juste dans les streams. Supposément Apple TV. Ouais, c'est sur Apple TV Plus. Je vais le voir, juste pour voir c'était quoi vraiment son intention, voir si ça rajoute l'histoire, mais ça se peut que non.
Ouais.
C'est comme Kingdom of Heaven, originalement, c'est un film de 2h30, mais le Extended, il est 4h quelque chose, puis honnêtement, le Extended de 4h, il est meilleur.
Okay.
C'est vraiment comme un gros film, tu vois tout genre, tous les angles de différents characters, comment ça arrive de A à Z, tandis que Napoléon, je suis curieux de voir où est-ce que ça s'en va, juste pour le même, mais honnêtement, ça laissait un peu à désirer. Une fois que le film c'était fini, c'était...
Mais pourquoi qu'il l'a pas fait en deux parties s'il y a du stock pour 4 heures, faire deux films de 2 heures?
C'est pas facile. Ouais, c'est ça, c'est le thème, Napoléon, conquérir le monde. Peut-être le sujet, c'est pas quelque chose que les studios veulent l'investir ou même le monde qui veut le voir, tu sais. Je pense pas, j'ai pas vu le box-office combien il a fait, mais honnêtement, les derniers films de Ridley Scott, ça n'a pas trop fait d'argent, fait que... C'est juste, c'est un gros nom qui donne un peu la carte blanche comment il veut faire son film.
Mm-hmm.
Puis après, on va voir le spectacle. Ouais. Ça laisse à désirer si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, comme n'importe quel autre film.
Ouais, puis c'est un sujet historique. Puis c'est ça. Je veux dire, ça
comme
peut,
tu veux-tu parler de Napoléon lundi le matin?
Non.
C'est ça.
À moins que tu aies un prof, puis c'est un cours d'histoire, puis.
Puis tu t'endors
en classe, puis t'as fait la bamboula toute la fin de semaine. Mais bon, ben, je vais aller le voir pour A, Ridley Scott, 2 pour Joaquin Phoenix. Et j'ai regardé dans les cours de cinéma américains. Notre prof nous parlait de « Avez-vous vu Alien? » Tout le monde disait oui. Ça, c'était comme... Mais il nous a fait voir Alien d'une autre façon. Puis c'était la première fois que... Je l'ai réécouté il y a une couple d'années. Puis les premiers. Puis je veux dire, ça a super bien vieilli. Même les effets... C'est la tension, un peu comme Steven Spielberg avec Jaws. C'est que tu vois pas la bébite jusqu'à la fin. Si t'aurais vu la bébite au début, tu t'aurais décroché. Mais tu sais même pas. Puis avant, il n'y avait pas de teaser, il n'y avait pas d'Instagram, de Facebook. Fait que quand tu allais au cinéma voir Alien, la bébite, tu la voyais juste à la fin, puis tu la voyais, on va dire, à peine.
Ouais.
Puis c'est toute l'anticipation, c'est tout le build-up du stress, puis comment c'est filmé dans les corridors de cette espèce de vaisseau spatial.
C'est ça.
Puis les toits, puis le filage, puis les tuyaux.
Ça joue vraiment avec les peurs.
La musique.
De nos 5 sens.
Exact.
Tu sais, genre juste avec nos yeux, si on voit une présence dans la noirceur ou quelque chose qui bouge, ça rajoute à la paranoïa. Dans le film, je pense qu'on le voit 3 fois. En demi-seconde.
Ouais.
Tu n'as aucune idée, mais c'est assez pour imprimer dans ton cerveau comme « Ah, chnout, il a l'air de ça, puis il est dégueulasse. »
Puis tu t'imagines, ton cerveau, ton imagination fait le travail que le réalisateur ou les effets spéciaux n'ont pas besoin de faire. Admettons, tu vois juste la main, tu vois juste une goutte tombée de bave ou une dent, t'imagines le reste de la bébite. Tu vas l'imaginer 2 fois pire que ce qu'elle est. Puis quand tu vas avoir, mais ça coche pareil parce que c'était H.R. Giger qui l'avait fait. Dans
le temps. Qui avait design le Alien puis tous les décors macabres. Mais c'était ça joue que la peur des 5 sens de l'être humain. Puis aussi, il y avait beaucoup d'éléments de surprise que tu t'attendais pas, c'était nouveau en 79. Il n'y a pas aucun film de science-fiction
d'horreur, je pense.
D'horreur, mais qui... Il montait la barre. Il y avait d'autres films dans le passé, mais lui, c'était vraiment comme le chestburster qui sort du bonhomme, genre sur la table. T'as personne, c'est pensé pour deux secondes, ah, c'est ça qui va arriver. C'était la première fois dans l'histoire qu'on se faisait sauter de nos sièges. Fait que là, maintenant, c'est genre, là, ça joue à différentes peurs. Il y a plein de films que ça. Personnellement, les films psychologiques, ça charge vraiment tes peurs.
Ouais.
C'est là, ça va vraiment te chercher. Mais tu sais, les jump scares, c'est classique popcorn flicks.
T'échappes la moitié du popcorn, faut-tu aller en acheter d'autres? Et c'est comme ça que les cinémas font de l'argent, mesdames et messieurs. On a trouvé la recette, le loop. Hey, je vais vous parler d'une bande dessinée. Je pense que c'est drôle qu'on parle d'Alien. Il y a un petit... il y a comme un lien, mais là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Là, je regarde, puis wow! Ça s'appelle Saria. C'est sur les éditions Delcourt et c'est écrit par Dufault, qui est un très grand scénariste français, européen de bande dessinée. Et t'as Serpieri et t'as Federici, deux Italiens au dessin. Qu'est-ce qui est très particulier? Le dessin, wow. La couleur, c'est sur la coche, c'est hyper réaliste. Et là, c'est une bande dessinée qui a été faite en deux temps. Et là, on a une introduction de Jean Dufault, qui est le scénariste, qui avait commencé cette bande dessinée-là avec un premier dessinateur, qui est nul autre que celui qui a fait Druna, qui s'appelle Paolo Cipieri, qui est un Italien, qui fait un dessin qui est... ligne hachurée pour les ombres, beaucoup de détails, beaucoup de fioritures. C'est hallucinant, le dessin. Fait que là, tu rentres dans l'histoire, on va dire, la première partie, c'est comme on dirait en deux tomes, mais qui ont fait une intégrale. Et là, les dessins sont sur la coche, les personnages ont peur, les dents, les visages, les close-ups, les corps masculins et féminins, l'anatomie, il n'y a aucun secret pour ce grand dessinateur-là. Et il y a de la couleur. Fait que c'est de toute beauté. Et on suit une héritière d'un trône. Son père est mort. Et elle a le trône entre les mains. Mais là, il y a beaucoup de pouvoir politique. Ça doit ressembler un peu à du Napoléon. Puis à tous les romans d'histoire avec les Borgia. Puis tout ça. Il y a des guerres intestines au sein des mêmes familles. Là, il y a une autre famille qui veut le pouvoir. Fait qu'elle, elle s'exerce. Elle a essayé d'aller se trouver des alliés. C'est une femme un peu, une jeune femme, pas naïve, mais qui sait pas qu'est-ce qui l'attend, même si elle a comme une mission. Son père, avant de mourir sur son chevet, il a remis une boîte avec trois espèces de clés qui vont lui ouvrir ou lui fermer les portes. Fait que si tu penses à trois clés, tu penses un peu à la religion catholique, tu as le ciel,
mm-hmm.
l'enfer, et le purgatoire.
Okay.
Fait que c'est un peu ça. Okay. Fait que c'est un peu philosophique, métaphysique, name it. Mais là, en cours de route, rendu à la moitié de la bande dessinée, ça s'appelle La Porte de l'Ange, c'est la deuxième partie. Fait que là, c'est pour ça que je vous parlais
c'est
de...
Gothique.
Et là, c'est encore... C'est ça, il y a un côté très gothique, très dark, très... Il y a un personnage militaire, il ressemble un peu à Mussolini. je sais pas si c'est à cause des Italiens, ça les a marqués. Il y a un côté un peu Gestapo. Anyway. Et là, il y a des créatures étranges. Il y a même un peu de fantastique et surréaliste. Mais là, on change de registre parce qu'on change de dessinateur. Et là, il y a comme une espèce de gap. C'est le même scénariste, c'est la même histoire, mais moi, j'ai décroché. J'aurais aimé que ça soit tout un même dessinateur qui est un des deux. Les deux sont sur la coche, c'est pas ça le problème. Mais on dirait que tu changes d'univers. On dirait qu'il y a comme aussi un gap de temps entre les deux créations. On dirait que les personnages, au début, on est plus concentré sur la fille. Et là, il y a un personnage masculin qui va être un de ses alliés, qu'elle va aller voir, qui a été pris en otage. En tout cas, c'est très compliqué, très politicaerie. Mais je vous la recommande juste pour les dessins de Paolo Serpieri. Et Jean Dufault, il fait toujours des récits là, épiques, démesurés. Et là, c'est une héroïne et c'est le nom de l'héroïne qu'on suit qui s'appelle Saria. Et c'est une aventurière là, tu sais, qui a pas froid aux yeux, mais là qu'elle doit se battre contre l'ordre établi qui veut renverser le pouvoir que son père avait laissé. Fait que c'est une très belle bande dessinée, très, on va dire, très épaisse, très lourde. Et Saria est écrit en or, le lettrage du personnage féminin. Et là, la pochette, la couverture, qui est une peinture, ben à l'intérieur, c'est l'auteur de la deuxième partie, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est la même chose. Mais le personnage, on dirait qu'elle a vieilli, on dirait qu'elle a du auburn dans les cheveux, tandis que dans le premier, c'était une jeune femme rousse aux cheveux... qui est en train de pousser. Fait que c'est deux styles différents dans une même bande dessinée.
Gothique, avec un très beau nom.
Saria. Hey, sur ça, les amis, on va revenir après la pause sur le lendemain de la veille.
C'est KUT 90.3 FM.
Luis d'Afrique presents Searching for Goya, a new flamenco production from Soledad Barrio and Noche Flamenca, an exceptional performance in Montreal. 9 world-class dancers, singers, and musicians revive the spirit of Goya. For one night only on Thursday, January 18th at Théâtre Maisonneuve. Reserve your seats now. For more info, visit placedesailles.com.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
De retour le lendemain de la veille à CKUT 90.3 FM avec Marc-André Jutra et Nelson. Mon nom est César et on a écouté The Pogues. On fait un tribute à Shane McGowan qui est décédé le 30 novembre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de The Pogues, Marc-André?
Ben, la pièce qu'on a entendue, c'est The Sunny Side of the Street. On voulait vous mettre du soleil sur le côté de votre rue. C'est un album qui est paru sur Island Records en 1990.
Produced by?
By Joe Strummer.
The Clash.
The Clash. Mais qui est Joe Strummer? C'est le seul unique The Clash. Fait qu'il y a un côté, l'album s'appelle L Ditch. Hein, c'est-tu pas merveilleux ça un peu?
quand même cool comme cover.
Ouais. Puis ben qui sont des Pogues, c'était pas juste monsieur Sean McGowan qui était au vocals, qui était vraiment un personnage. C'est-tu Shane ou Sean?
Non, je pense que je l'ai botché le nom.
On l'a peut-être massacré. Moi c'est Shane pour moi, je pense. S-H-A-N-E. En tout cas, c'est le chanteur à la dentition parfaite. Ben, il y avait d'autres membres avec lui.
Shane.
C'est Shane, OK. T'avais Phillips on guitar. T'avais James en accordéon. T'avais Daniel qui jouait de la bass. T'avais un instrument que tu te demandais c'était quoi? Ben, c'est un certain Terry Woods qui joue de la mandoline.
Oui.
Fait que c'est comme un groupe punk, mais qui jouait sans distorsion, qui jouait avec des instruments acoustiques, à fond le tapis, à fond l'alcool, à fond la fiesta, la bamboula, et on a des albums de Pogues. Il y en a peut-être moi j'appelle ça des albums, pas originaux, là, mais des albums qui font partie de leur discographie, qui sont pas des best-of, qui sont pas des lives. Ça tourne autour de 5-6 gros albums. Le reste, c'est des B-sides ou des lives. Fait que c'est moins intéressant. Mais El Ditch est un très bon album. Puis qui mieux placé que Joe Strummer pour enregistrer un groupe qui a cette énergie-là contagieuse qui parle de débit de boisson, etc. Mais pas juste ça. Mais ils ont été vraiment trop étiquetés avec la mauvaise réputation de l'alcool puis tout ça. Là, surtout le chanteur là, qui est tombé dans le panneau un peu, si on peut dire. Là, mais fait que on paie nos hommages à ce grand chanteur. Grand musicien, grand groupe. Allez réécouter toute la discographie. Super intéressante. On va y aller avec un film que j'avais jamais vu au complet, que j'en avais entendu parler. Toi, tu connais ça, tes yeux brillent.
Tu m'as rien dit à faire. Là, tu me fais un petit cadeau de surprise.
Une petite surprise avant les fêtes, avant Noël. Battle Royale. Film japonais. Sorti il y a très longtemps, en 2000, hein? Le temps passe vite, il y a 23 ans. C'est 18 ans et plus.
Très 18 ans et plus.
Très 18 ans et plus. Dans le fond, là, Battle Royale, là, c'est les pré-Hunger Games,
ouais.
C'est les pré-Squid Game, ouais. C'est les pré... Je veux le réécouter, je l'ai, là. Je l'ai déjà vu. Les enfants qui sont sur une île, laissés à eux-mêmes. Lord of the Flies. Classique. Le classique de la littérature et du cinéma.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est, mais à une coche supérieure.
Brutal. Et. Ouais.
Fait que c'est des étudiants qui sont envoyés sur une île,
ouais.
Et qui reçoivent dans leur baluchon une arme.
Ouais.
Ça peut être un couteau, ça peut être une arme à feu, ça peut être une hache, ça peut être une corde, ça peut être une chaîne, n'importe quoi. Et là, il faut qu'ils s'éparpillent dans l'île et il faut qu'il en reste juste un survivant,
ouais.
À toute cette histoire-là. Et c'est leur professeur de... Je sais pas si c'est... En tout cas, leur professeur de leur collège, parce que c'est un collège, les filles, les garçons
sont
tous habillés avec un uniforme, les garçons avec une cravate, les filles aussi, les filles en mini-jupe, les garçons en pantalon. Et c'est des jeunes ados entre 14-15 ans, sont mineurs en tout cas.
Oui.
Et là, ils sont comme... drogués, ils s'endorment, je ne me rappelle pas trop comment.
Ils sont comme kidnappés. Puis,
ben, c'est ça, ils sont comme, ils boivent... non, ils mangent un gâteau. C'est ça, c'est un gâteau. Et dans l'autobus, pour aller se rendre à quelque part, pour une activité parascolaire, et là, tout le monde s'endort, à part un, fait qu'il tape sa tête. Et là, quand ils se réveillent, ils sont dans une classe ou dans un édifice qui ressemble à une classe sur une île.
Ouais.
Une île qui est déserte et qui est entourée d'eau. Là, je veux dire, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de traversier, il n'y a rien. Sont là. Et là, leur professeur leur joue un sale vilain tour. C'est vous allez jouer à ce jeu-là quand le son va commencer. Et si vous ne jouez pas, il y a des conséquences.
Oui, graves conséquences.
Fait que si vous avez aimé Squid Game puis vous pensez que c'était l'histoire la plus originale, ben ça vient de
Battle Royale. C'est le...
Je crois que c'est qu'est-ce qui a inspiré tout ce qui est venu par après, dans un sens, le thème de survie dans une île, puis même jusqu'à ce jour-ci, ça a influencé les jeux
Big
vidéo.
Big Brother. Et...
Mais les jeux vidéo, maintenant, ils ont des comme des Battle Royales, les thèmes, les Fortnite, les embarques, les gens sont là-dessus, ah, puis okay. Là, tous les Call of Duty, le Battle Royale, trend a juste éclaté les derniers, je te dirais, 6 ans de ça. Mais ce film-là, qui est basé sur un livre...
C'est un manga, je pense.
Ils l'ont adapté en manga.
Ah, okay.
Et ils l'ont adapté en film tout en... C'est quoi, en 2003... Non, 2000.
C'est 2000, ouais.
Qui était film, directé par Kinji Fukasako, qui est un directeur reconnu dans l'histoire du cinéma japonais. Il était très vieux dans le temps. Quand il a, je pense qu'il a 70 ans quand il a fait ce film-là. C'est un de ses derniers films.
Oh.
Je pense qu'il a fait aussi la suite de Battle Royale, qui n'était pas... Aussi la bon. Meilleure des tout.
Ouais.
Mais c'était ça, c'était un de mes premiers films que j'ai vus à l'adolescence.
Et là, là, ça allait.
J'avais un itch pour voir des films japonais.
Ouais. Ichi the Killer.
Ouais, Ichi the Killer. Ouais. Par Takashi.
Ouais.
Ouf, j'oublie son nom.
Non, mais je sais que c'est Takashi.
Il a fait 13 Assassins, il a fait Harakiri, il a fait plein d'autres films. Mes films favoris viennent de ce monsieur-là qui a fait Ichi the Killer. Lui, ben, il a... Ah, j'ai oublié ça. B. Takeshi, c'est l'acteur qui fait le professeur. C'est un acteur très reconnu qui a fait...
C'est pas lui qui joue Old... Non, je veux dire, il joue Old Boy.
Non, il joue pas Old Boy. Il a fait la trilogie Outrage qui est sortie dans les derniers 10 ans. Il a fait quelques films que ça fait son comment dire... que ça a brassé un peu dans la canne dans les années 90.
Ouais.
Directeur, acteur, puis aussi les fanatiques des... Il y a un show qui s'appelle Takashi's Castle dans les années 80.
Okay.
Que genre, ils étaient tous déguisés en kimono, puis là, le monde, ils jouaient à des espèces de jeux comme les Ninja Warriors,
ouais.
Mais dans les années 80. Fait que c'est le monde qui... Ils se promènent, puis il y a une boule de roche qui tombe sur leur tête, puis ils sont pétés de côté.
Okay.
Puis aux États-Unis, ils ont fait un dub version.
Ah, ouais. Ah, okay.
Puis c'était des acteurs américains qui faisaient les voix de eux, puis ils disaient juste des conneries. C'était une des shows que je regardais quand j'étais à l'école. Puis c'est comme ça que j'ai découvert ce monsieur-là. Je le voyais souvent à la télévision. Puis je suis comme, c'est qui lui? Puis là, il a fait plein de films. Mais ouais, mais Battle Royale.
Classique des classiques. Si vous... Et là, moi parenthèse, je parle avec des gens, puis je dis, ah, j'ai hâte que. Le nouveau Squid Game sort, puis tout ça, ben, il dit, écoute-le, il est sorti, nanana. Là, je dis, oh, pense non. Pas, mais anyway. Mais ma blonde, et là, des amis, écoute le jeu.
Le jeu, ouais.
Le, on va dire le vrai jeu, mais personne meurt. C'est le même décor, la même ambiance, le même setup, le même vêtement. Ils ont pris 500 kidam, monsieur, madame, tout le monde qui veulent aller jouer à ce jeu-là pour gagner. Là, ils sont rendus à 4 440 000. À chaque fois qu'il y a une personne qui est éliminée, c'est 10 000 $ de plus dans l'espèce de grosse boule de que l'argent tombe. Fait que là, ils sont rendus, là, cette semaine, on va savoir, il en reste 3. Et là, j'imagine que ça va tomber à peut-être 5 millions, je sais pas. Et là, moi, j'étais comme, ah, oh, c'est une gamique, c'est arrangé. Et là, je faisais le souper. Et ma blonde l'écoutait parce qu'elle a binge-watch. Et là, ben, j'étais curieux. Ah, oh, le jeu-là. Oh, ça a l'air nice. Attends, je vais prendre une pause. Là, je regarde ça. Et là, j'ai embarqué. On a écouté 3 back-to-back. Et là, j'ai pas vu le début, mais j'ai vu on approche la fin. Et c'est addictif. C'est de toute beauté. C'est des vraies personnes, mais ils sont presque casse-type. T'as la méchante, que je dirais pas c'est qui. T'as l'autre qui fait tout le temps des mauvais tricks. T'as du monde des États-Unis. T'as des British. T'as du monde de partout. J'ai trouvé ça weird. C'est peut-être un commentaire.
Il y a du monde crush.
Non, il y a du monde crush. Mais j'ai trouvé ça spécial. C'est que t'as des Caucasiens, des Blancs. T'as des Afro-Américains ou Afro-British, je sais pas de où est-ce qu'ils viennent exactement. T'as une Asiatique, mais on est aux États-Unis. J'ai vu aucun, dans les épisodes que j'ai vus, là, on approche la fin, il n'y avait pas de Latino.
Puis j'étais comme, c'est pas représentatif. C'est pas représentatif. Non, mais.
Oh, je suis triste, je vais plus voir le show.
Mais non, exactement.
Je vais attendre la deuxième saison du vrai show que rien. Ouais.
Mais non, mais c'est fou, c'est capoté. Là. Ah, je sais pas si tu l'as vu un peu. Ouais, c'est à voir. Fait que tout ça vient de.
Ouais, de Battle Royale.
Exactement.
Tu sais, ça a commencé par un livre, puis après ça, ils ont fait un manga. Je l'ai lu, le manga, qui est vraiment fleshed out, vraiment bien fait, aussi
C'est-tu très gory, si tu viens là?
C'est très, très, très gory, c'est pour les adultes.
Oui, ketchup.
C'est ketchup en blanc et noir. Mais le manga, il est vraiment, je pense que c'est à peu près 10 volumes. Puis ça va vraiment à chaque étudiant, genre leur background. Ah, un peu à la Squid Game, tu sais, ouais, genre, ouais. On passe au moins, tu sais, les derniers 10 personnes, on voit vraiment le background de ces personnes-là.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour se rendre là? Comme, ouais.
Quel genre de vie ils avaient avant, pourquoi ils sont là, pour quelles raisons ils veulent gagner.
Ouais.
Battle Royale, c'est un peu la même chose.
On voit un petit peu, c'est vrai. Ouais.
T'as l'étudiant que genre, ah, il avait tout, il était super talentueux, ou il a juste dégringolé parce qu'il ne se fait pas accepter. Ouais. T'as le gars qui est violent, qui n'a pas eu de parents, il a été abandonné, fait ouais. qu'il est rebelle. Puis là, t'as genre l'héros et l'héroïne, que genre c'est deux jeunes qui survivent, ils essaient de survivre par n'importe quelle façon. Puis t'as genre les sociopathes, t'as les. Ouais. T'as genre toutes les crazies que genre. Tu vois vraiment aussi chacun leur trauma. Ouais. Comment ils sont rendus là. Fait que c'est vraiment pas pourquoi ils sont juste méchants. C'est vraiment, ils ont eu tout un élément déclencheur, un trauma ouais. qu'ils ont juste rendu soit vilain ou soit genre pourquoi ils ont un esprit.
Et, ça donne la crédibilité au personnage parce que c'est pas juste Hollywood.
Exact.
Le bon, le méchant. Non, il était bon à la base, mais. Il s'est rendu là parce qu'il n'avait pas le choix pour survivre. C'est vraiment intéressant. Moi, je pensais que je l'avais vu. Oui, je l'avais vu. Peut-être que j'avais même vu le 2 avant de voir le premier. Ouais,
le 2, c'était pas le meilleur.
Mais c'était pas le meilleur. Mais j'en avais tellement entendu parler que j'ai dit, regarde, je vais me retaper ça. Et là, tous les morceaux du puzzle se sont replacés. Et là, je veux retourner à la source, qui n'est même pas ça. Mais ça m'a fait penser ouais. à Lord of the Flies. Que j'ai lu en littérature, je pense que c'est presque une lecture obligatoire au secondaire, comme roman en anglais, avec les Outsiders, puis Rumblefish, où je ne me rappelle plus c'était quoi le titre. Mais là, je veux revoir le film original des années 80 de Lord of the Flies. Je vais vous en reparler. Mais en attendant... la deuxième saison de Squid Game, regardez Battle Royale,
ouais.
c'est la genèse de tout ça.
Ouais, ouais. L'inspiration pour Kill Bill.
Ouais.
Chiaki Kuriyama. Ouais. Takeshi Kitano, c'est le nom. Ben, Beat Takeshi, c'est le nom qui s'est donné aux États-Unis, ben, en Amérique. Puis, un autre film que je recommande, c'est Zatoichi, The Blind Swordsman.
Ok.
Takeshi Kitano, il a filmé et. Protagoniste du film. Zatoichi, c'est un vieux... comment on appelle ça? C'est comme un film des années 70, puis il y en a eu comme 20 ans. Genre, c'est comme un Superman, mais genre, il y en a eu comme plein de films.
Okay.
Puis c'est un dude qui est aveugle, puis il sort, tu sais, un chambara, comme ils appellent, c'est genre les films classiques de samouraï.
Ouais.
Puis lui, il a fait un genre, une espèce de reboot en 2003. Vraiment cool à voir. Puis fait que c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'histoires, puis mais quand même Battle Royale, c'est un film
c'est la base.
La base, base, base.
Classique des classiques.
Bon.
Là, quoi? Je parle pas dans le micro, là, le temps file, on est rendu où dans notre émission? On a tout le temps d'y aller en musique. Voilà, en musique, hein. On est perdu. Problème technique. Le temps, c'est de l'argent. Ben, on va aller tout de suite en zézique, vous allez voir, vous allez aimer ça.
C'était Rosalía de l'album Los Angeles, sorti en 2017. La chanson s'appelle De Plata. Rosalía, qui sa carrière a juste éclaté les derniers 4-5 ans, surtout son dernier album Motomami, qui est sorti l'année passée. Excellent album qui mélange ses influences flamenco et un peu de reggaeton aussi, mais vraiment un peu left field, je dirais un peu d'influence de Bjork. Même il n'y a pas longtemps, il a sorti un single avec Bjork, que Bjork a donné une vieille chanson qu'il a écrite dans le temps de Vespertine, qui est sortie en 2001, puis disons une chanson perdue, puis Rosalía a fait une collaboration avec ce track-là.
Ça donne un second souffle à la pièce.
Ouais, puis quand même intéressant, la vidéo est vraiment cool, c'est genre... quelqu'un fait comme un deep fake de Bjork quand c'était plus jeune, puis là il y a Rosalía, puis les deux sont en train de se battre. C'est quand même cool. Okay. On dirait un Street Fighter, genre, mais c'est deux filles qui sont en train de se battre, puis après ils chantent. Quand même cool. Mais c'était Rosalía, ouais. Moi, ça, c'est une chanteuse que ça va être intéressant de voir sa carrière, ça s'en va les prochains 10-15 ans. Ça, c'est quelqu'un qui est She's Here to Stay.
Elle a une voix assez particulière. Ça s'est venu chercher, même si c'est pas la même chose, Diego et Sigala. Mm-hmm. Tu sais, l'autre grand nom du on va dire de la nouvelle la nouvelle musique flamenco, là, c'est une voix éraillée, là, c'est qu'on dirait que toutes les ancestors de Los Ancestores están ahí adentro, mm-hmm, de ella. Tu sais, on dirait qu'on sent tout son peuple à travers elle,
là, à la première note, tout le monde reste silencieux, puis on embarque dans cette journée. C'est pour ça qu'il est fun de cet album, qui est différent des autres après, parce que là, c'est vraiment un mélange électronique, reggaeton, puis tout ça. Mais le premier album, c'est juste elle avec un guitariste. Fait que c'est les roots. Mais le roots de flamenco, mais c'est moderniste. C'est pas un traditionnel flamenco.
C'est pas Paco de Lucia, là. C'est non.
Ouais. Puis elle-même, juste sa façon comme elle chante, c'est très moderne. Fait que... ça crée genre c'est comme un Miles Davis qui part un nouveau jazz, puis ouais,
c'est une scission au flamenco traditionnel.
Exact. Mais Los Angeles, c'est très recommandé A à Z. Comme la chanson qu'on vous a jouée, l'album au complet, là, c'est un ride. Fait que c'est back to her. C'est genre le point milieu de sa carrière, parce que là, elle va dans le côté électronique, mais tu vois vraiment comment
d'où est-ce qu'elle vient.
D'où est-ce qu'elle vient, puis comment elle chante. Puis c'est là que tu vois son talent dans sa voix. At its rawest form.
On répète son nom, juste.
Rosalía.
Rosalía. OK. À suivre, à écouter. En parlant d'Espagne, on va parler d'un grand de l'Espagne, mais en art visuel. Le temps file pour moi. Paru sur Futuropolis. C'est une bande dessinée qu'on va dire historique, écrite par Jean-Luc Cornette et Matteo. Et ça s'appelle Vénus à son miroir. Vénus à son miroir, je vais vous dire c'est quoi? C'est qu'en 1649, mandaté par le roi d'Espagne, Philippe IV, et accompagné par son esclave, Juan de Pareja, Diego Velázquez entame son second séjour en Italie. Son esprit se perd dans Rome.
il s'y sent bien plus libre qu'à Madrid. Le peintre adopte une nouvelle approche du corps humain et de la féminité. La découverte de cette sensualité inattendue bouleversera son art et sa vie. Et là, ça commence, fait que c'est juste un épisode dans l'histoire de ce grand peintre espagnol qui est Velázquez. Et là, le dessin est superbe. Wow. Et là, on le voit à Madrid en février 1649 regarder une peinture de nul autre que Van Eyck, cette fameuse toile où est-ce que c'est un couple de bourgeois avec un petit chien et au mur derrière eux, il y a un miroir. Et c'est comme une mise en abîme, si on peut dire. Et ça a beaucoup influencé Velázquez et son apprenti. Il l'appelle l'esclave, là, mais c'est son collègue qui mélange les peintures et tout ça. Et les deux, ça les a bouleversés. Et là, ils ont un mandat d'aller à Rome, en Italie, pour le roi Philippe, pour... acheter et prendre des œuvres. Fait que c'est pas à Velázquez là, de peindre. Il est comme mandaté comme un acheteur d'aller chercher des pièces que lui trouve belles. Ils font confiance à Velázquez. Fait qu'ils partent en bateau. Ils s'en vont acheter des pièces. Et pendant son séjour, naturellement, il rencontre d'autres artistes et tout ça. Et là, il s'initie à la joie de vivre italienne, à leurs mœurs et coutumes. Et il décide de peindre dans son séjour, même s'il a un mandat d'acheter autant des sculptures que des peintures pour le roi, de créer une de ses toiles. Et un de ses bons amis lui prête un studio. Il décide de faire une toile qui va s'intituler le titre de la bande dessinée. Ça s'appelle « Vénus à son miroir » de Venus Rockaby. Qui était faite en 1647 jusqu'à 1651. Fait que c'est sur plusieurs années. Fait qu'il l'a pas faite en one shot, si on peut dire. Je sais pas s'il l'a terminé en Italie ou s'il a dû la terminer en Espagne. Et Diego Velázquez, il est né en 1599 et il est décédé en 1660. Et c'est une huile sur toile, l'histoire de cette fameuse Vénus à son miroir, qui a quand même un grand format, 122 centimètres par 160, fait que c'est 1 mètre et quelques par 1 mètre, et est à la National Gallery. Et cette pièce-là, c'est le corps d'une femme nue, à dos, qui se regarde dans le miroir.
Tenu par un ange.
Juste la partie un peu, je trouve, un peu cheesy, mais tu sais, à l'époque, les mécènes, ceux qui donnaient l'argent, mais c'était des rois, puis les rois, ils étaient avec l'Église, puis... Fait qu'il fallait tout le temps qu'il y ait une connotation, on va dire, un peu... mystique et tout
c'est
ça.
C'est punk rock, ils veulent laisser un message
contre comme l'establishment, ouais, je suis pas sûr. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que le visage de la jeune femme, c'est on le voit pas parce que comme je vous dis, elle est de dos, on voit son dos et ses fesses et ses jambes. Et c'est l'ange qui tient le miroir qui fait en sorte qu'on voit son visage. Fait que c'est vraiment un clin d'œil à une toile. Qui l'a vraiment influencé. Fait que je vous recommande cette bande dessinée-là historique.
À son miroir, par exact. Jean-Luc Cornette et Matteo.
Oui, paru sur Futuropolis. On a-tu autre chose à dire, vu que le temps s'écoule à vue d'œil?
Bon, mais c'est un bon lundi, un bon show. Le décembre qui commence, temps des fêtes qui approchent. Prenez le temps de chercher vos cadeaux de Noël cette semaine.
Ou pas. Attendez pas à la dernière minute. Il en restera plus.
Allez-y après la job le lundi ou le mardi, mercredi, n'importe quel jour avant la fin de semaine, ça vaut la peine. Sinon, vous allez courir.
Sinon, restez chez vous, commandez-la en ligne. Ou faites quelque chose cette année. Donnez-vous juste de l'amour, de l'amitié, du temps entre amis, entre copains, comme on fait nous le lundi matin. On écoute de la musique, tout ça. On mange un petit peu, on boit un petit peu. On se voit. Puis le matériel, c'est pas nécessaire, finalement.
C'est pas nécessaire.
Je suis presque philosophique à ce lundi matin.
Mais des fois, on a besoin des bobettes puis des bas. Fait que,
ouais. C'est pratique. Vous savez que les records, c'est toujours apprécié. Et la littérature et la bande dessinée. Sur ce,
on vous laisse. Bonne journée.
écouter les autres émissions qui suivent sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Bye bye tout le monde. Pasa gente, siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte. Sólido, es la guaracha de un camacho, de este macho inquisidor, de su gazpacho melancólico. El buen salvaje de la turma, capaz de la suma, comunidad se entreteje y ahora pulula. Aprieta mano que el gusano no bendice.
Louis d'Afrique presents Searching for Goya, a new flamenco production from Soledad Barrio and Noche Flamenca, an exceptional performance in Montreal. 9 world-class dancers, singers, and musicians revive the spirit of Goya. For one night only on Thursday, January 18th at Théâtre Maisonneuve. Reserve your seats now. For more info, visit placedesailles.com.
Montreal, Montreal, are you looking for the most authentic Caribbean meal in the city? Do you need a clean and spacious venue to host your next special event? Are you searching for fresh and delicious meals for your late night crave? Come and visit the Caribbean Food Factory, open 7 days a week, 24 hours a day, for all your dining, pickup, delivery, catering needs. Call 514-481-